Les podcasts du Collège de France.
J'en arrive à le titre de la leçon d'aujourd'hui. La dernière fois, nous avions examiné en détail la façon dont on quantifiait le signal en se propageant sur une ligne de transmission. On va continuer avec cette quantification du signal. Et on va aborder aujourd'hui une des conséquences qui est l'extension du théorème fluctuation-dissipation aux régimes quantiques. Et nous allons traiter ce théorème du point de vue de la théorie de la diffusion. Et à la fin, donc, si le temps le permet, je comparerai cette approche de la diffusion avec l'approche hamiltonienne qui utilise le formalisme de Caldera et Leggett. Voilà le plan de l'exposé. Donc, je rappellerai ce qu'on a traité dans la leçon précédente. Et le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est de bien vous donner la recette permettant de faire le lien entre les opérateurs des quantités électriques et les opérateurs qui décrivent les photons. Enfin, c'est ça qu'on essaye de faire, finalement, c'est d'arriver pouvoir être capable de passer d'une description du circuit en termes de photons, absorption, émission des photons, et les quantités plus usuelles comme tension et courant. C'est donc, on a besoin vraiment là d'établir un lien très concret et précis donc, entre ces opérateurs. Parce qu'on apprend beaucoup de choses en examinant le circuit, soit du point de vue des photons, soit des points de vue des courants et des tensions. Et en fait, la richesse, c'est d'être capable de passer rapidement de l'une à l'autre des descriptions. Et donc, comme je l'ai indiqué, nous allons, appliquer cette correspondance à l'établissement du théorème fluctuation-dissipation quantique. Et en particulier, on pourra, comme cela, calculer, ça sera un exercice d'application, on va calculer les fluctuations quantiques d'un oscillateur LC qui est dissipatif. Donc, jusqu'à présent, on avait traité des circuits non dissipatifs. Ces nouveaux outils que l'on aborde aujourd'hui, on va pouvoir traiter l'influence de la dissipation sur les fluctuations quantiques. Une des quantités que j'ai introduites la dernière fois, c'est l'amplitude des ondes qui se propagent le long d'une ligne de transmission, ces fameux A, qui ont la dimension de la racine carrée de la puissance. Donc ces ondes obéissent à l'équation d'onde habituelle. Vous pouvez décomposer toute onde en une onde qui se déplace vers la droite et une onde qui se déplace vers la gauche. Et ces quantités A sont en quelque sorte intermédiaires entre les courants et les tensions. Hein, la tension le long de la ligne peut se décomposer en deux tensions, une tension correspondant aux ondes se propageant à droite et une tension correspondant aux ondes se propageant à gauche, de même pour le courant. Et ces amplitudes d'ondes, finalement, sont reliées aux tensions et courants par la racine carrée de l'impédance caractéristique de la ligne. Et vous voyez que A est en quelque sorte à mi-chemin entre I et V. Et A est un concept très pratique. On peut dire que tout le matériel micro-ondes finalement traite essentiellement des A, c'est-à-dire que en technologie micro-ondes, on n'a jamais de source de tension ni de source de courant. Tous les générateurs ont des impédances internes et donc ce A est très pratique pour décrire les signaux. Alors l'interprétation physique du A, c'est que si vous écrivez la densité d'énergie le long de la ligne, donc E est la densité d'énergie, c'est une énergie par unité de longueur, sa dérivée est reliée au gradient d'un vecteur, qui est le vecteur de Poynting. C'est ce que j'écris finalement, c'est la conservation locale de l'énergie ici, le long de la ligne. Et donc, P, le vecteur de Poynting, le flux d'énergie, s'exprime très facilement en fonction de ces A, A vers la droite et A vers la gauche. Et donc, le vecteur de Poynting, c'est la différence entre le carré de l'amplitude à droite et de l'amplitude à gauche. Donc, A est un concept très pratique pour établir le lien avec les photons. Alors, je vous rappelle la formule donnant l'impédance caractéristique de la ligne. L'impédance caractéristique, c'est le rapport entre tension et courant se propageant le long de la ligne. Il y a aussi la vitesse de propagation. Et donc, nous sommes en train d'apprendre à quantifier ces quantités. Et je vous rappelle donc ce qu'on a fait la dernière fois. La variable primitive, le champ finalement qu'il est commode de quantifier, c'est l'équivalent d'un flux de nœuds qu'on avait vu dans les premières leçons. C'est l'intégrale du champ électrique le long de la ligne. Il y a une première intégrale spatiale, donc on intègre le long de la ligne jusqu'au point X, et on intègre ensuite par rapport au temps. Donc c'est cette variable que l'on quantifie. Sa variable conjuguée, c'est la densité de charge le long de la ligne, c'est le moment conjugué du flux. Et la quantification se passe après un passage dans l'espace de Fourier, donc on passe en impulsion, en vecteur d'onde. Et là, je vous rappelle la notation que j'utilise assez systématiquement. Donc, une transformée de Fourier se note en utilisant ces parenthèses carrées. Et finalement, à partir de ces transformées de Fourier des champs, on arrive aux opérateurs A et A croix. Et là, on change de variable. Plutôt que de parler en impulsion, en vecteur d'onde, on parle en énergie. Donc, en fait, cette transformation est très commode parce qu'elle permet de mettre finalement A et A croix sur le même, plan. Un A croix, finalement, c'est un A correspondant à une fréquence négative. Donc, c'est, si on écrit les équations pour l'évolution de A et A croix, cette convention est tout à fait logique. Et c'est quelque chose qu'on... Cette convention est très pratique, justement, pour les calculs qu'on va faire par la suite. Donc, je rappelle que ces opérateurs A d'oméga obéissent à des relations de commutation simples, ces relations de commutation, si elles s'écrivent très facilement, disons, elles se manipulent très facilement dans les calculs, elles sont très opaques. La signification de ces opérateurs A d'oméga est très délicate, puisque oméga est un index continu. On ne saisit absolument pas, avec ces A d'oméga, le nombre de degrés de liberté du système. Les degrés de liberté de ce système continu sont un nombre dénombrable, c'est peut-être infini, mais c'est une infinité dénombrable, et cet indice continu, nous fait perdre un petit peu la notion du nombre de modes dans le système. C'est pour ça qu'on passe à une autre représentation que je vais indiquer immédiatement. On finit là avec ces opérateurs A d'oméga et on écrit l'hamiltonien. Et donc ici, formule très simple. Mais encore une fois, c'est une somme continue ici qu'il est difficile d'interpréter. Alors, pour vraiment comprendre ce que finalement les différents composants micro-ondes quantiques font, il faut introduire la notion de mode du signal. Un mode du signal, c'est un degré de liberté. Et pour introduire ces degrés de liberté, on a une base, on a besoin d'une base de fonction orthonormale. Et ça, c'est une notion complètement classique, en quelque sorte. C'est la propriété. Là, je décris une propriété qui est valable pour toutes les ondes, quelles qu'elles soient, les ondes classiques, le son, par exemple. Et on organise les choses de la manière suivante. On peut représenter un espace où le temps est suivant l'abscisse X, la coordonnée X, et la fréquence suivant la coordonnée Y. Et chaque fonction dans cette base, qui permet de décomposer les signaux, peut se représenter comme un petit rectangle. Donc le rectangle signifie quoi ? Sa largeur signifie la bande passante de cette fonction de base, et la longueur de ce rectangle signifie l'étendue temporelle, et aussi le pas. Ce qui est très important, c'est de voir que la répétition, le pas avec lequel on échantillonne l'espace correspond justement à cette grandeur B ici et tau. Disons que donc c'est un pavage de l'espace temps-fréquence qu'on réalise. Et la dernière fois, j'avais parlé d'ondelettes de Shannon qui étaient, elles, très localisées dans l'espace des fréquences. Là, aujourd'hui, juste pour mémoire, je vous ai dessiné la forme d'une ondelette de Kaufmann et Meyer, qui s'appelle aussi, les fonctions cosinus locaux. Et c'est en fait un petit peu, on peut imaginer une porte rectangulaire dans laquelle il y aurait un cosinus ou un sinus. Et cette porte a été adoucie avec une fonction de raccord qui n'est pas n'importe quelle fonction, qui est une fonction qui préserve l'orthogonalité des différentes fonctions, bien qu'elles puissent se recouvrir d'un petit pavé à l'autre. En fait, ces fonctions restent orthogonales. Ce qui est important de voir, c'est que pour avoir une base orthogonale complète, on a une contrainte très forte sur le produit entre la bande passante, ici, et la longueur temporelle du paquet d'ondes. Le produit bêta doit être égal à 2π. Donc, une fois qu'on a établi cette décomposition d'un signal en mode, et ça, c'est un concept en quelque sorte classique, on peut l'appeler première quantification, et le fait que ça soit possible résulte du fait qu'on traite toujours des signaux d'énergie finie, on peut, à ce moment-là, construire des opérateurs d'annihilation et de création de mode, et c'est là où on fait vraiment de la mécanique quantique, puisque en quelque sorte l'amplitude correspondant à chacun de ces modes va être une variable quantique. Donc c'est aussi ce qu'on appelle la seconde quantification, et cette fois-ci on va avoir une relation de commutation pour ces opérateurs qui est celle des photons ordinaires, c'est-à-dire qu'elle vaut 1 si finalement on combine les opérateurs correspondant à ces deux boîtes conjuguées, et sinon on a 0 pour toutes les autres combinaisons. Donc c'est là où les photons apparaissent vraiment au niveau de l'amplitude de ces modes. En quelque sorte, un signal et il y a finalement la nature nous offre un procédé qui est construit à l'intérieur du système pour finalement faire de la conversion analogue digitale. Le signal a finalement, lorsqu'il va être mesuré, il va n'avoir que des composantes digitales, puisqu'on a un nombre discret de modes, et chacun de ces modes peut être rempli avec un nombre discret de photons. Donc quand on va mesurer complètement un signal, finalement, on ne va avoir que des nombres entiers, bien qu'il s'agisse d'un signal continu. Donc je voudrais rappeler le fait que cette relation entre la bande passante et la longueur temporelle, la durée d'un signal de base, est différente de la relation d'incertitude qui empêche ces fonctions de base d'être à la fois localisées en fréquence et en temps. Donc là, j'ai introduit l'incertitude à la fois en temps et en fréquence. C'est à partir des seconds moments de ces fonctions de base. Et donc, on a ici une relation entre ces incertitudes. Il est important de voir que si on cherche à avoir des fonctions de base qui ont une localisation maximum, une incertitude, une aire minimum ici, eh bien, on va perdre le fait que la base est complète. On va passer à des bases surcomplètes. Et donc, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir une base complète et discrète et saturer, finalement, la relation d'incertitude, avoir la valeur minimum. Ça nous amène à parler de ce qu'est un analyseur de spectre. Hein. Un analyseur de spectre va mesurer, finalement, le contenu de ces modes, le contenu en énergie de ces modes, finalement. Donc, vous avez décomposé le signal en mode discret et l'analyseur de spectre vous donne le contenu en énergie de ces modes. Alors, la définition formelle du spectre est donnée à partir de la moyenne de ce produit, des amplitudes à différentes fréquences, pour un signal en moyenne, si on fait une moyenne sur toutes les réalisations d'un signal bruité, on a cette moyenne des corrélations à différentes fréquences sera nulle, sauf lorsque les deux fréquences seront identiques. Là encore, on retrouve cette fonction delta mal commode. Cette formule est très pratique à utiliser, mais on perd le sens physique de ce qui se passe. Et donc, en passant ici à ces amplitudes de mode, on comprend un petit peu mieux ce qu'est le spectre. Donc, c'est en fait tout simplement ces amplitudes en modules au carré, l'amplitude de chaque mode au carré. Alors, il y a deux définitions pour la densité spectrale. On peut prendre soit un produit qui respecte l'ordre moins m plus m dans les composantes et un ordre qui symétrise finalement les combinaisons. Et ce type de densité spectrale, je l'appelle la densité spectrale du physicien, c'est celle qui est employée en général dans tous les articles écrits par les physiciens, alors que cette combinaison symétrique de l'énergie du mode à fréquence, de la partie du mode à fréquence négative et de la partie à fréquence positive, c'est plutôt la définition de l'ingénieur électricien qui, en plus, utilise comme unité pour les fréquences les hertz et non pas les radians par seconde. Donc, c'est important de réaliser là qu'il y a deux types de densité spectrale dont finalement la valeur de cette densité spectrale est double lorsqu'on passe finalement de celle du physicien à celle de l'ingénieur. Et je note par un S droit celle du physicien et c'est avec un S arrondi celle de l'ingénieur. Voilà. Donc maintenant, on arrive au point clé qui est comment va-t-on passer des tensions et des courants à ces opérateurs concernant l'amplitude des modes. Alors ici, là, j'ai indiqué la suite un peu des opérations. Donc on parle des tensions et des courants le long de la ligne qui sont très physiques. On imagine bien un peu comment on les mesure avec un voltmètre et un ampèremètre. Donc là, on décompose entre ces ondes à droite et à gauche qui sont déjà plus abstraites. On passe à ces amplitudes A. Et maintenant, là, ici, dans cette étape, on va considérer les transformées de Fourier des A. De l'autre côté, on a les opérateurs de création et d'annihilation pour ces modes dont je viens de parler. Mu est un index qui décrit le couple M-MP. Et ces opérateurs de création et d'annihilation de photons par mode sont reliés à ces opérateurs continus ici. Et finalement, la manipulation finalement des phénomènes quantiques dans les circuits repose sur la bonne. Si on veut en avoir une bonne image, il faut être capable de bien établir le lien entre ces amplitudes finalement physiques et ces opérateurs ici de création et d'annihilation. Alors, on peut être guidé par une simple équation aux dimensions. Si on regarde l'amplitude des ondes en transformée de Fourier, on voit que la dimension de ces amplitudes, c'est une puissance à la puissance 1,5. Et puisqu'on a fait une transformée de Fourier, ici, on a multiplié par un temps. Et donc, on voit que ces A de oméga ont la dimension d'une action, de la racine d'une action. De l'autre côté, ces opérateurs A de oméga ont la dimension de la racine carrée d'un temps, puisque ici, quand on voit, par exemple, quand on effectue le commutateur, on trouve une fonction delta. La fonction delta pour une dimension 1 sur la fréquence, et donc on a ici un temps, et puis finalement, comme il y a deux opérateurs, la dimension de chaque opérateur, c'est la racine d'un temps. Donc la question, c'est comment on relie ce grand A à ce petit A. Et la réponse, la voici. Une fois qu'on sait, on connaît cette correspondance, en quelque sorte, les calculs sont extrêmement systématiques. Et vous voyez qu'on pouvait deviner le résultat simplement par une équation aux dimensions. Donc, racine de h bar oméga fournit bien la dimension manquante entre grand A et petit a. Il y a un facteur 2 supplémentaire ici qui est assez particulier, qui provient du fait que les opérateurs de création et d'annihilation, on peut les voir comme des vecteurs de Fresnel. Hein, c'est leur module au carré donne l'énergie. Alors que les A d'oméga viennent par paires, il y a le A de plus oméga et le A de moins oméga, il faut sommer l'énergie de chacune de ces composantes, l'une à fréquence positive et à fréquence négative, pour avoir l'énergie, d'où le facteur 2. Donc ici, en quelque sorte, dans cette leçon, il y a cette formule à retenir. Une fois qu'on connaît cette formule, vous voyez, quand on connaît ce lien, en retraçant ces liens en sens inverse, on peut finalement aller des photons aux tensions et aux courants, donc, et vice-versa. Donc tout phénomène décrit en termes de courant et de tension peut se redécrire en termes de photons, et la même chose dans le sens inverse. Donc, il y a quelques étapes ici, il ne faut pas perdre des facteurs en route, mais c'est finalement quelque chose qu'on peut faire de manière tout à fait systématique. Et donc, je vais passer le reste de la leçon à vous expliquer d'où cette formule vient, et puis finalement l'appliquer. Alors, cette formule, elle elle revient en quelque sorte de l'examen de ces relations entre ces opérateurs de flux et les opérateurs à croix. Donc les formules que j'ai données au début, retranscrites, donnent ceci. Et finalement, les tensions et les courants peuvent s'obtenir simplement à partir des dérivés du flux. La tension, c'est la dérivée du flux par rapport au temps, et le courant, c'est la dérivée spatiale par rapport à l'espace du flux. Donc, on arrive comme ceci à ces formules. Et là, on voit apparaître dans ces formules une quantité qui va revenir constamment, qui est ce produit de h bar fois l'impédance de la ligne racine. Donc ça c'est regardons un peu cette quantité. Elle est absolument fondamentale dans ces circuits quantiques. C'est donc le produit de la constante de Planck, donc quantique, fois l'impédance caractéristique de la ligne. Et quand on prend une ligne, un câble coaxial 50 ohms, cette constante ici fait 10 nanovolts par gigahertz, ce que l'on peut transcrire sous forme d'un flux, hein, puisque finalement c'est cette quantité qui donne la dimension d'un flux. Et en fait, on trouve une quantité très petite par rapport au quantum de flux pour, disons, les fréquences, micro-ondes, du téléphone portable. C'est-à-dire que pour quelques gigahertz, les photons, finalement, correspondent à des signaux pour lesquels le flux est extrêmement précis et fluctue très peu par rapport au quantum de flux. Par contre, si on prend la constante ici H bar sur C, qui est devant le courant ici, on trouve en fait une quantité qui a la dimension d'une charge et qui se trouve être, pour des fréquences de l'ordre du gigahertz, en fait de l'ordre de la charge électronique. C'est donc les fluctuations quantiques du champ sont décrites de la charge le long de la ligne pour des photons qui font intervenir ces fréquences caractéristiques sont de l'ordre de la charge de l'électron. Donc on fluctue finalement beaucoup par rapport à la charge de l'électron, à ces fréquences, et on fluctue très peu par rapport au quantum de flux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... c'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir toujours en tête. Voilà, donc... examinons de près cette correspondance. Alors, il faut bien comprendre tous les éléments. Donc, le champ a été décomposé en deux directions de propagation. Ces deux directions de propagation le long d'une ligne infinie restent indépendantes. On va voir que lorsqu'on va mettre quelque chose au bout de la ligne, on va établir des relations entre les deux directions de propagation, mais à ce niveau-ci, la ligne est considérée comme infinie à chaque bout, donc les deux directions de propagation sont indépendantes. La fréquence, je le répète, peut être positive ou négative. Donc si on a une fréquence négative, on a en fait un opérateur de création au lieu d'un opérateur d'annihilation. Et finalement... ce coefficient de proportionnalité termine la correspondance. Alors, si on somme le produit des A, donc ça c'est le produit du A par le A conjugué, si on somme sur toutes les fréquences, on aura, par le théorème de Parseval, ça revient à sommer sur les A en temps. Et donc, en fait, c'est l'énergie totale, cette quantité est l'énergie totale transportée par la ligne. C'est une façon d'établir, de comprendre d'autres relations qui vont venir. Et je voudrais maintenant introduire un dernier concept. On avait défini l'opérateur de création et d'annihilation pour les modes du champ. Et là, je voudrais faire la même chose pour les A, pour les opérateurs A. Et là, il s'introduit quelque chose un petit peu délicat, c'est que pour les A indismus, donc les amplitudes des modes, eh bien, il va falloir sommer sur les fréquences dans la bande correspondant aux fonctions de base. Et donc là, on va se retrouver avec une fréquence moyenne. Ces oméga bar correspondent à l'énergie moyenne du mode. Donc ça, c'est un point assez délicat. Donc, lorsqu'on va utiliser des ondelettes, par exemple, de largeur de bande assez grande, lorsqu'il peut être dans certains problèmes important d'utiliser une grande largeur de bande, l'énergie du photon correspondra à une fréquence moyenne. Donc, moyenne au sens, finalement, de cette formule. J'insiste, cette remarque est importante parce qu'on pense souvent que H bar oméga, c'est un peu la relation de définition du photon. Un photon n'a pas une fréquence bien déterminée, il a une énergie qui est une énergie moyenne qui finalement s'obtient de cette façon, mais un photon en aucun cas correspond nécessairement à une onde monochromatique de fréquence bien définie. Par contre, son énergie reste, son énergie moyenne est parfaitement définie par cette formule. Oui.
Juste au niveau notation, l'indice sur le A, le grand A, le mu,
oui.
C'est la même chose que MP.
Voilà, c'est ça. Je l'ai indiqué sur quelques transparents. Oui, mu dans tous ces transparents signifie le couple MP.
Et dans la ligne du dessous, tu as un oméga bar indice M et ensuite tu as un P à droite.
Oui, oui. Alors, effectivement, donc. En fait, là, le oméga d'un mode, il dépend de la partie M du mode et pas de la partie P. L'indice P, c'est un indice de position temporelle.
Oui, c'est indépendant de P.
Voilà. Mais donc, cette fréquence moyenne du mode, en fait, ne dépend que de l'indice M. Voilà. Donc là, on a défini les opérateurs du champ. Et maintenant, on peut passer en revue quelques configurations du champ de la ligne particulière. Alors, d'une manière générale, on va pouvoir remplir chaque mode du champ par un certain nombre de photons. Donc, voici par exemple une fonction d'onde du champ correspondant à un nombre bien précis de photons dans chaque mode. Vous voyez, on a sur le vide ici, on va opérer un certain nombre de fois. Le nombre de fois, c'est n mu, le nombre de photons dans ce mode. Et on opère avec cet opérateur de création. Et à partir de ces états de base, on peut construire l'état le plus général de la ligne, qui va être une superposition linéaire dans laquelle chaque terme ici correspond à un nombre bien déterminé de photons dans la ligne. Et là, on a en quelque sorte, par cette formule, écrit toutes les possibilités, tous les champs possibles pour la ligne. Ces champs contiennent, par exemple, toutes les corrélations possibles, les intrications. Bertrand Relais nous parlait du troisième moment, des moments d'ordre plus élevé. Ils sont contenus, finalement, ces moments sont contenus dans ces coefficients qui indiquent les corrélations qui peut y avoir dans le contenu en photons des différents modes. Alors, si on, maintenant, on arrive à une notion très importante qui va intervenir beaucoup, c'est on a passé un certain temps à bien expliciter les commutateurs des champs. Une autre quantité très importante, c'est les anticommutateurs. Une fois qu'on s'est donné un champ, une configuration de champ, ça va permettre de donner la valeur moyenne des anticommutateurs des amplitudes du champ. Alors, par exemple, pour un champ qui contient un nombre de photons bien défini, cet anticommutateur moyenné sur le champ, c'est tout simplement l'énergie d'un photon fois le nombre moyen de photons. Dans cet anticommutateur, vous voyez, il y a le terme de l'énergie de 0.01/2 qui correspond au fait qu'on a pris la combinaison symétrique du produit des opérateurs de création et d'annihilation. Alors, pour un anticommutateur particulièrement important, c'est celui qui correspond à l'état thermique. Donc, l'état thermique de la ligne, ça va être un état dans lequel la population, c'est un état qui n'est pas pur, c'est un état mélangé, un état qui, par contre, dans lequel le nombre de photons dans chaque mode obéit à la statistique de Boltzmann, ce que j'ai finalement écrit ici. Et cette statistique de Boltzmann pour l'énergie de chaque mode se traduit en fait dans la relation de Bose-Einstein entre le nombre moyen de photons par mode et la température. Donc en fait, cette combinaison du nombre de photons plus 1,5, c'est ce fameux cotangent hyperbolique qui fait intervenir la fréquence du mode divisée par la température. Et donc, voilà une relation extrêmement importante qui va nous servir par la suite pour le théorème fluctuation-dissipation. Donc, l'anticommutateur des amplitudes des modes est donné par ce fameux cotangent hyperbolique. Et bien sûr, là, vous avez la fonction delta, qui le delta de Kronecker, qui vaut 1 si ces deux opérateurs sont conjugués, correspondent au même mode, sont deux versions conjuguées du même mode, ou 0 si on a des modes différents. Donc ça, cette formule est absolument fondamentale parce qu'elle permet d'effectuer toutes les moyennes correspondant aux états thermiques de la ligne, dans un état dans lequel on a peuplé la ligne de manière thermique. Voilà. Donc avec ces outils, avec ces différentes relations, on peut établir le théorème fluctuation-dissipation quantique, dans le régime quantique. Je réécris l'anticommutateur maintenant des champs qui ont maintenant avec l'indice continu. Donc on a en quelque sorte retraduit les commutateurs précédents en version continue. Et donc je fais intervenir ici ce nombre de photons thermiques, qui est ce fameux cotangent hyperbolique. Et maintenant, à partir de cette donnée, ici, je peux calculer n'importe quelle fonction de corrélation, par exemple, une fonction de corrélation des opérateurs de tension. Donc, c'est un petit développement qui a été écrit ici et qui, finalement, donne cette intégrale ici, qui fait intervenir cette fonction cotangente hyperbolique et avec pondéré par ce facteur oméga. Les différentes puissances d'oméga en face du cotangent hyperbolique vont provenir, disons, de la nature des différents opérateurs, suivant que vous intéressez au flux ou à la tension ou au courant, vous aurez des puissances différentes d'oméga. Donc, on arrive là à l'expression du théorème fluctuation-dissipation à partir de l'anticommutateur des tensions. On peut, en combinant avec le commutateur, obtenir ici la fonction de corrélation entre deux tensions à des fréquences différentes. C'est ce que donc, j'appelle la densité spectrale des fluctuations de tension, mais là, cette densité spectrale concerne la tension correspondant à des ondes se propageant dans un sens à droite ou à gauche. Ce n'est pas la tension que vous allez mesurer, c'est la tension correspondant à ces ondes progressives. Et on arrive à cette expression. Et un petit peu avec quelques lignes de calcul, on arrive finalement aux vraies tensions, aux tensions mesurables avec un voltmètre. Donc, lorsqu'on prend une ligne de transmission et qu'on l'ouvre, qu'on la laisse ouverte à un bout, les ondes vont se réfléchir et finalement, par un phénomène d'interférence en quelque sorte, l'interférence constructive entre les ondes se propageant à gauche et les ondes se propageant à droite, on va additionner les tensions et donc les fonctions de corrélation vont être multipliées par 4. Donc si je regarde les fluctuations de tension ici, aux bornes de cette ligne, je vais avoir 4 fois cette densité spectrale que je viens de calculer. Et donc, j'arrive finalement, après tous ces calculs, à l'expression du théorème fluctuation-dissipation quantique. Donc, j'ai la fonction de corrélation de la tension en fonction de la fréquence, et on voit qu'elle fait intervenir ce coefficient ZC, qui est justement l'impédance caractéristique de la ligne, qui est la résistance que l'on mesurerait ici. Si la ligne est infinie, la ligne est indiscernable d'une résistance dont la valeur est ZC. Donc, en fait, on a là un exemple de relation entre la densité spectrale des fluctuations en tension et la valeur du coefficient de la dissipation, qui est ici ZC. Et cette partie ici, h bar oméga fois le cotangent hyperbolique, c'est la partie, c'est une partie qui fait intervenir la fréquence. L'expression classique ne fait pas intervenir la fréquence. Si on développe cette expression pour les petites fréquences et qu'on ajoute les fréquences positives et négatives, on retrouve à ce moment-là la densité spectrale des fluctuations en tension exprimées par les ingénieurs, qui est donc 4 fois KBT, la constante de Boltzmann, fois la température, fois la résistance. Donc c'est très satisfaisant. Finalement, on a, en remplaçant une résistance par une ligne de transmission infinie, prise dans un état thermique, on retrouve ce fameux théorème, avec un bonus quand même, puisque ça, c'est un théorème classique. On a maintenant l'expression complète des fluctuations à toute fréquence, et pour les fréquences élevées, les fluctuations vont être dominées par le mouvement de point zéro. Il y a un contrôle aussi qu'on peut faire à partir de cette expression, c'est que si on regarde la puissance par unité de bande passante qui est envoyée par la ligne, c'est-à-dire si on pouvait mesurer le flux dans une direction, eh bien, ces mêmes formules, dans le régime classique, permettent de bien voir qu'on a en fait KT fois la bande passante. Donc, une façon de voir les choses, c'est que classiquement, chaque degré de liberté du signal, chaque mode de la ligne, finalement, a une énergie égale à KT. Cette énergie se déplace, le paquet d'ondes se déplace au cours du temps, et finalement, on a la puissance récoltée va être la somme sur le flux de tous ces paquets d'ondes, et on arrive très simplement à cette formule. Donc c'est C'est très rassurant. Nous allons exploiter dans la suite du cours cette formule de nombreuses fois, puisqu'elle elle permet de calculer finalement les fluctuations quantiques d'un circuit. Alors, il y a un autre type d'état quantique pour la ligne, là, tout à fait différent du peuplement thermique. C'est l'état qui correspondrait à la ligne lorsqu'on envoie un signal déterministe, par exemple avec un générateur, une source micro-ondes. Donc, lorsqu'on va envoyer un signal provenant d'une source micro-ondes, on va mettre les modes de la ligne dans ce qui s'appelle un état de Glauber, un état semi-classique. On peut le représenter de la manière suivante. Donc, classiquement, cet état correspondrait à un point dans l'espace des quadratures. Alors, l'espace des quadratures, c'est les composantes, la partie réelle de l'amplitude A, si vous voulez. Et la quadrature, ça c'est la quadrature qui s'appelle en phase. La quadrature hors phase, ça correspond à la partie imaginaire, finalement, de la moyenne de A. Ces opérateurs A, ici, sont les opérateurs propres de ces états de Glauber. C'est là, les états de Glauber obéissent à cette fameuse relation. Et la façon d'interpréter cette valeur propre alpha ici, c'est que son carré donne l'énergie du mode en nombre de photons, en unité du nombre de photons. Et l'angle ici, c'est l'angle, c'est la phase du signal, qui est à ce moment relativement bien définie pour ce type de mode. Alors, ça, c'est un concept très pratique, puisque les électriciens sont habitués à parler des modes du signal en utilisant les vecteurs de Fresnel. Dans ce type de représentation d'un signal cohérent quantique, finalement, on n'a pas un vecteur de Fresnel, on a une sucette de Fresnel, puisque la tête du vecteur, en fait, fluctue. Mais on a, dans cet état, un compromis optimum, en quelque sorte, entre la précision avec laquelle est donnée l'énergie et la précision avec laquelle est donnée la phase. L'incertitude est minimale pour le produit de ces deux quantités. Alors, est-ce qu'on peut mesurer cet état? En fait, la question qui se pose, c'est est-ce que, par exemple, on peut mesurer une des composantes en phase ou hors phase du signal? La réponse est oui. Chacune de ces composantes peut être mesurée avec une précision en principe arbitraire, bien qu'à l'heure actuelle, on n'ait pas tout à fait encore la technologie permettant de le faire. C'est quelque chose qui est en train de se faire, c'est la recherche en cours, et donc d'ici quelques années, on aura une façon de mesurer ces quantités pour des signaux micro-ondes dans la limite d'une précision compatible avec ce que permet la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique vous empêche de mesurer simultanément ces deux composantes. Si vous mesurez une quadrature ici, vous allez brouiller la quadrature conjuguée, mais rien ne vous empêche pour chaque mode du signal de mesurer parfaitement une de ces quadratures. Et voilà un peu la façon dont il faut s'y prendre. Alors, il faut commencer par définir le mode à partir d'un filtre passe-bande qui va fixer la largeur B du mode. Et il faut faire suivre ce filtre d'un ampli. Alors, cet ampli n'existe pas encore tout à fait, quoique il y ait un certain nombre de groupes qui sont proches d'y arriver. Donc ici, ce que j'ai représenté par ce triangle doré, c'est un amplificateur qui va amplifier une composante du signal, et cette composante définie par cette phase θ. Et donc, à travers cet amplificateur, survit un opérateur qui correspond à l'amplitude de la phase, de l'amplitude de cette composante du mode que l'on cherche à mesurer. Alors, cette phase est imposée par un oscillateur local. En faisant battre la sortie de l'ampli avec cet oscillateur local, ce coupleur hybride est l'équivalent d'une lame séparatrice en optique. En faisant suivre ce coupleur hybride de deux détecteurs quadratiques et en faisant la différence, on doit être capable de mesurer parfaitement précisément finalement une des composantes du champ. Donc finalement, c'est en quelque sorte, je suis en train de vous dire que cet opérateur A M peut se mesurer parfaitement précisément. En principe, si vous avez cet amplificateur. La question qui se pose, c'est maintenant, est-ce qu'on peut mesurer le nombre de photons ? Est-ce qu'on peut mesurer le nombre de photons dans le mode ? Alors, l'expérience que j'ai décrite précédemment, c'était la mesure d'une quantité proportionnelle au A. Là, c'est une quantité quadratique en A. Le nombre de photons est le produit d'un A par un A croix. Alors, ça semble possible. Là encore, c'est quelque chose qui est à la limite de ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui devrait déboucher très bientôt. Alors, imaginez ici un signal très haute fréquence. Là, avec les technologies actuelles, il faudrait imaginer plusieurs centaines de gigahertz. Donc, vous avez un signal extrêmement faible que vous avez atténué par une série d'atténuateurs. Il est cohérent, il vient d'un générateur micro-ondes. Il y a simplement très peu de photons qui arrivent. Imaginez qu'il y a un photon qui arrive tous les millisecondes. Vous avez atténué la puissance de votre signal. C'est une onde parfaitement cohérente. Et vous allez compter les photons dedans. Alors, comment s'y prendre ? Bon, vous avez votre ligne de transmission et vous allez la terminer par une résistance mésoscopique, une résistance un peu particulière, une très très petite résistance, une résistance bien isolée du monde extérieur. Il faut bien imaginer que les fils ici vont être supraconducteurs, de sorte que les électrons chauffés dans la résistance resteront dans la résistance, ils ne pourront pas se diffuser ailleurs. Et donc, chaque photon, micro-onde, va être capable de déposer une énergie dans cette petite résistance suffisante pour faire varier appréciablement sa résistance. Pendant que ces photons, finalement, ce signal arrive de manière continue, vous êtes en train d'effectuer à toute vitesse, en envoyant beaucoup de photons, mais des photons très petits et un signal cohérent, vous êtes en train de mesurer la résistance, cette résistance. Ce n'est pas contradictoire. Vous pouvez avoir, vous avez sur ce circuit une séparation des fréquences. Les hautes fréquences passent par cette capacité, ici, et viennent s'absorber dans cette résistance. Et les basses fréquences qui vous permettent de mesurer la résistance, elles passent à travers la self, mais ne sont pas perdues dans la capacité. Et en principe, je dis bien en principe parce que cette expérience n'a pas été encore réalisée, mais on pense qu'elle devrait se faire très prochainement. Eh bien, la mesure de la résistance en continu ici devrait vous donner des pics correspondant à l'arrivée aléatoire des photons de la grande fréquence. Donc là, vous avez réalisé en quelque sorte un photomultiplicateur. C'est une expérience d'ailleurs qui a qui un intérêt même dans la mesure en radioastronomie, puisque vous pourriez, en intégrant la surface des pics, déterminer même l'énergie du photon, c'est-à-dire la fréquence du photon incident. Ce qui est absolument crucial ici, c'est d'arriver à effectuer cette résistance, à la mesure de cette résistance, à un rythme suffisamment rapide, justement pour, en quelque sorte, faire en sorte que vous observez finalement ce qui s'appelle des sauts quantiques. C'est-à-dire que dans ces modes du signal, vous observez leur énergie suffisamment rapidement, vous forcez le signal à déclarer s'il a zéro ou un photon. Le mode, vous le forcez à déclarer s'il a zéro ou un photon. Donc, en quelque sorte, ces outils ne sont pas commerciaux, mais sont en préparation. On a en principe tout à fait le moyen de mesurer les opérateurs du champ, les combinaisons linéaires des opérateurs du champ et les combinaisons quadratiques. Donc, finalement, faire exactement la même chose que ce qui se fait en optique quantique. Donc, j'insiste bien sur le fait que, pour l'instant, c'est un peu de la science-fiction, tout ça, mais c'est des choses qui vont déboucher dans les années qui viennent. Voilà. Donc, deux, trois minutes, je ne vais pas terminer cette partie, mais je voulais juste vous donner un aperçu de la façon dont on s'y prend pour calculer les fluctuations d'un oscillateur LC amorti par une résistance. Donc, jusqu'à présent, on avait abordé la question de la quantification d'un circuit non dissipatif. Là, maintenant, j'introduis une résistance dans le circuit. J'introduis aussi même une source, une source déterministe, monochromatique. Et vous savez, par le théorème de Thévenin, ce circuit où vous avez une source de tension en série avec une résistance peut être reformulé en mettant ici une source de courant en parallèle avec la même résistance. Et il y a une correspondance due à Nyquist qui est extrêmement commode, que j'utilise ici, dans laquelle, en fait, on peut représenter cette résistance. C'est quelque chose qu'on vient de voir dans la première partie de ce cours. On peut remplacer la résistance par une ligne de transmission infinie. Cette correspondance est très pratique parce qu'elle permet de traiter à la fois la dissipation due à cette résistance et le signal déterministe ici, de pompage du circuit, exactement sur le même plan. Donc la source de tension, elle fait partie des ondes qui sont entrantes, c'est les ondes se propageant à gauche sur la ligne. Cette fois-ci, je les appelle les ondes entrantes parce que j'adopte le point de vue du circuit. Et la dissipation, en fait, correspond au fait que l'énergie du circuit est envoyée dans la ligne, ici, par ces ondes sortantes. Donc, cette correspondance est extrêmement précieuse. C'est un changement de point de vue, si vous voulez. Plutôt que de... un circuit dissipatif est vu, en général, de manière... je dirais assez sinistre, c'est-à-dire que on a une perte d'énergie pour ce circuit. Donc tout est analysé du point de vue de l'énergie stockée dans ce circuit. En fait, dans ce point de vue, tout est tout à fait différent. Ce circuit dissipatif est analysé tout simplement comme la diffusion d'ondes arrivant de l'infini, se propageant le long de cette ligne. Elles rentrent dans ce circuit, elles ne sont absolument pas absorbées, elles sont simplement déphasées. Elles repartent au bout d'un certain temps dans la ligne jusqu'à l'infini. Donc finalement, le même circuit est vu de d'un point de vue tout à fait différent. Et ce point de vue est très, très, pour toutes sortes de phénomènes, extrêmement précieux. Et on peut calculer justement les fluctuations quantiques de ce circuit LC par ce point de vue. Je développerai ces idées la fois prochaine et je vais sauter très rapidement à ma conclusion qui est le programme de la prochaine fois où nous allons aborder pour l'instant nous avons discuté de circuits entièrement linéaires. Nous allons parler justement de ce qu'introduisent les non-linéarités du circuit et nous passerons aussi au circuit actif. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.